Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, je suis Audrey Séron et bienvenue sur la fréquence Fort et Clair, le podcast des jeunes IHEDN. Pour ce nouvel épisode Fort et Clair, nous retrouvons Mathieu Jehong, chargé de mission Asie du Nord-Est au sein des jeunes IHEDN. Bonjour Mathieu. Ton invité aujourd'hui est le colonel Ettori. Le colonel est attaché de défense à l'ambassade de France en Corée du Sud. Il est également le représentant du ministère des Armées au sein de la mission diplomatique et auprès des autorités militaires de la République de Corée. Il est le chef du groupe de liaison française auprès du commandement des Nations Unies avec l'autorité de signature de l'armistice du 27 juillet 1951. Mathieu, à toi le micro.
La problématique d'aujourd'hui se portera sur la France, sur la mémoire dans les relations internationales entre la France et la Corée. Quelle dimension depuis la guerre de Corée?
Merci beaucoup. La France, ce n'est pas le pays qui a perdu le plus d'hommes en Corée, mais elle occupe une place particulière dans les relations, on va dire dans la guerre de Corée. Elle a dans la géographie, la geste de la guerre de Corée, le bataillon français a une place particulière. Pour nous, c'est une guerre oubliée, compliquée, une période compliquée dans laquelle l'engagement de forces militaires pour combattre un régime communiste n'était pas tout à fait du goût de l'ensemble de la population. Donc c'était une période en France où elle était compliquée. Donc elle a elle-même été éclipsée par la fin de la guerre d'Indochine. Rapidement, la guerre de Corée est tombée dans l'oubli, et si elle n'y était pas tombée, on aurait fini de la pousser dans les abîmes de l'histoire, parce que bon, c'était quand même pas quelque chose dont on se souvient. En plus, c'est une petite guerre en fait, parce que un peu plus de 3000 hommes à l'échelle de nos engagements du moment. C'est tout qu'on fait un tout petit détachement. Et puis en plus, c'est un détachement, c'était une des premières fois qu'on faisait un détachement où on n'était pas chef. On était juste une composante d'un ensemble tout nouveau, au service d'un ensemble tout nouveau qui s'appelait les Nations Unies. Donc on devait être un objet difficile à saisir à cette époque-là. On ne parlait pas encore, comme on le fait maintenant, d'engagement en coalition, de tout ça. Donc la France, c'est un assez petit truc, assez loin, et assez compliqué. Donc on l'a oublié. Bon, par contre, les Coréens ne l'ont pas oublié parce qu'eux, ils sont toujours en état de guerre. On va dire la cicatrice qui vient béante, qui barre la péninsule coréenne, peut nous rappeler que la guerre n'a pas cessé. On s'est juste en état de non-belligérance. Et la guerre de Corée constitue pour le peuple coréen un ciment. C'est un ciment social autour duquel s'est construit la nation coréenne et continue de se construire la nation coréenne, puisqu'elle a toujours un service national auquel elle est extrêmement attachée. Le bataillon de Corée est un élément important de notre dialogue. Bon, d'abord parce qu'il y a le général Monclar, cette énorme figure historique qui trône dans le paysage et qui constitue pour les Coréens un modèle. La société coréenne est extrêmement hiérarchisée et il renvoie au modèle du lettré confucéen qui se sacrifie pour son pays et qui accepte de perdre ses galons, donc de perdre sa position sociale, au profit d'une cause plus grande. Le personnage du général Monclar a un sens, et il est très compréhensible, très, très fort dans la culture coréenne. Ensuite, ce bataillon, il est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On l'a rattaché à une division américaine. Pour les Américains, on portait encore l'opprobre de la défaite de 40. Donc bon, les soldats français, c'était n'avaient pas un grand succès dans l'armée américaine de l'époque. Donc on l'a rattachée à la 2e DI parce qu'elle avait été saignée dans la contre-offensive chinoise, qui était bien contente de récupérer un bataillon frais. Et puis voilà, donc on n'attendait pas plus, nos alliés n'attendaient pas plus que la représentation symbolique d'un bataillon. Et il se trouve que ce bataillon, au prorata de ses effectifs, a fait des petits miracles. D'abord parce qu'il a été engagé dès le début dans une phase critique de la guerre, c'est-à-dire que donc la bataille de Scipioni, qui avait été précédée d'un ou deux accrochages, qui a été, on va dire, le tournant de cette phase de la guerre et qui a permis la contre-offensive des forces américaines. Déjà, ils ont joué un rôle clé dans un moment capital de la guerre. Et les hasards de la guerre ont fait qu'ils ont été engagés durant toute la guerre sur des batailles qui étaient des batailles clés. On va dire béni par le dieu de la guerre, il a véritablement été au moment clé, au bon endroit, avec le bon résultat. De ce fait, il est l'unité étrangère la plus décorée pendant la guerre de Corée. Comme il a été beaucoup engagé, il est aussi au prorata de ses effectifs l'unité qui a été le plus endeuillé. En fait, quand on prend la, on va dire la surface combattante du bataillon, dans le bataillon de Corée, vous aviez une chance sur 10 de mourir et une chance sur 2 d'être blessé. C'est la seule unité, des unités étrangères constituant les forces de l'ONU, qui est amalgamée les soldats coréens au sein du bataillon. Vous savez que les soldats coréens, la plupart du temps, dans les unités américaines, où ils étaient soit supplétifs, soit en unité constituée sous commandement coréen. Nous, on ne les a pas utilisés, employés comme supplétifs. Nous les avons employés comme des frères d'armes. Dans le chaudron de Scipioni, et ils ont totalement rempli leurs fonctions. Ils ont tenu, bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'une aussi jeune troupe. Tous ces six, mais bout à bout, des figures tutélaires, des victoires, des combats sanglants et héroïques, et cette mélange avec le soldat coréen a fait que ce bataillon, il est unique. Dans toutes les unités qui ont combattu en Corée, nos amis britanniques, australiens, canadiens ont perdu énormément d'hommes dans des batailles extrêmement sanglantes. Il s'est fait une place dans l'histoire et il est connu et respecté autant, on va dire, des intellectuels coréens que de l'armée coréenne. Voilà, c'est un peu pourquoi il est particulier. Donc, comme il est particulier, pourquoi depuis longtemps, on continue à en parler, on continue à faire vivre sa mémoire, non seulement parce que c'est mon devoir, enfin c'est ma mission en tant qu'attaché de défense, mais aussi parce qu'il touche nos autres, il permet de porter un message beaucoup plus actuel. Comment une troupe, tout qu'on ne fait pas si nombreuse, de soldats volontaires et qualifiés peut avoir un effet décisif sur des batailles. Les soldats de ce bataillon, parlons du capitaine Goupil, s'est engagé en Indochine, combat de contre-guérilla, encore de la contre-guérilla à cette époque-là, pour basculer sur du combat haute intensité. Ce qui est un peu le chemin de notre armée, qui passe d'un combat antiterroriste et qui maintenant, effectivement, se recentre, même si elle a toujours su le faire, mais elle se recentre sur du combat haute intensité. Donc on a un trajet un petit peu similaire. Donc c'est aussi pour ça que le bataillon français est assez actuel, parce qu'il a été engagé sur des combats de haute intensité. N'oublions pas que les Américains ont perdu 50 000 morts, quand même, 50 000 hommes pendant la guerre de Corée. Donc c'était des préparations d'artillerie sur des combats comme à Roed, dont les quantités d'obus nous rappellent les quantités d'obus de la guerre de 14. Donc c'est du combat vraiment haute intensité, dans des conditions particulièrement difficiles, comme vous le savez, qu'elles soient climatiques ou topographiques, que la Corée, c'est tout sauf plat.
Les vétérans du bataillon français, maintenant de l'ONU, ont vieilli du fait que le conflit commence à s'éloigner. On a fêté l'année dernière les 70 ans de la fin du conflit. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la manière dont sont perçus et aussi comme sont traités? Je crois il y a un voyage annuel, etc. Et donc, quelle relation entretient le ministère des Anciens Combattants coréens vis-à-vis des vétérans des nations étrangères qui ont combattu sur son sol pendant le conflit?
Je veux vraiment souligner le respect, les efforts que font le gouvernement coréen pour rendre hommage aux vétérans, non seulement français, mais de tous les pays. Il y a un véritable travail qui est fait pour les mettre en avant, pour essayer de faire vivre leur mémoire. Donc le gouvernement coréen n'est pas économe de ses moyens, puisqu'effectivement, comme vous l'évoquiez, il invite chaque année des vétérans à venir en Corée, faire passer une petite dizaine de jours, alors fait faire certaines activités. Le gouvernement coréen nous permet d'ailleurs d'avoir la main sur ces activités, de les customiser pour chaque pays. Donc ça nous permet de monter des programmes ad hoc liés à nos batailles et souvent liés aussi aux quelques vétérans qui viennent pour essayer de les ramener sur les lieux où eux-mêmes ont combattu. Véritable investissement du gouvernement coréen. Encore une fois, je vous le disais en début, la guerre de Corée, elle est structurante dans la société coréenne. Lorsque la dernière fois nous avons été à Roed, quand en novembre 2022, nous étions à Roed avec un petit groupe de vétérans. Roed, c'est dans la DMZ, hein, c'est à la limite de la DMZ. Nos monuments sont dans la DMZ. Et ben, nous avons mangé avec les soldats coréens qui, depuis 70 ans, montent la garde. Nos vétérans ont déjeuné avec ces jeunes appelés dans leur baraquement à l'endroit exact où se sont tenus les combats. Donc il y a quelque chose de transmission et de très symbolique. Et les Coréens le cultivent et nous donnent l'occasion de le faire vivre. Effectivement, comme vous le disiez, il n'y a plus beaucoup de survivants en bataillon. Nous sommes à moins d'une dizaine, beaucoup d'entre eux ne plus voyager. Donc j'espère que cette année, nous pourrons en ramener un ou deux d'entre eux en Corée. Mais effectivement, ça commence à devenir difficile. Et donc maintenant, nous travaillons comment continuer à porter cette histoire, comment continuer à la faire vivre. Et nous évoquerons ça dans les autres questions. Mais effectivement, il y a un enjeu. Maintenant que nous n'avons plus ces visages et ces voix, pour garder vivante cette histoire et surtout nous permettre de la connecter avec les nouvelles générations. Le défi pour nous, il est là, même si bizarre ça puisse paraître, votre génération est plus malléable que la mienne et perçoit mieux l'histoire que peut-être la génération précédente. Donc elles sont assez réceptives, mais il faut encore trouver les moyens de la toucher, avec des médias qui la touchent, avec des histoires qui la touchent, avec des méthodologies qui la touchent, mais c'est notre défi.
Vous avez largement évoqué la question qui suit, c'est-à-dire celle de la présence de la mémoire et de l'enseignement relatif à la guerre de Corée vis-à-vis des bataillons étrangers dans l'éducation nationale coréenne, mais aussi je crois que de nombreuses interventions ont été faites dans les lycées français, de Séoul, oui. Et donc finalement cette mémoire-là reste vive dans la construction des jeunes coréens, dans leur programme, dans l'éducation nationale coréenne.
L'histoire effectivement est un enjeu, t'as aussi un enjeu politique en Corée. Effectivement, l'enseignement de la guerre de Corée, l'enseignement de l'histoire est important. Nous concentrons sur notre effort effectivement sur nos deux lycées, hein, le lycée Xavier et le lycée français de Séoul, dans lequel il y a des Coréens, 30% d'un côté, beaucoup plus de l'autre. Nous essayons de conduire des activités avec eux, alors pas seulement des présentations indigestes. On essaye de les impliquer dans des projets. Nous avons par exemple le lycée Xavier qui, lui, est en train de finaliser une pièce de théâtre avec une construction d'une maquette à l'échelle de la Darwed. Donc avec un projet qui est très intéressant et très vivant. Et nous avons le lycée français de Séoul qui a choisi des lectures de correspondances, de livres de soldats français et coréens pour retracer la bataille d'Arwed. Pourquoi cette bataille d'Arwed? Parce que nous avons en ce moment un corps au Macri, le Macri, un organisme du ministère de la Défense coréen qui a pour mission de retrouver les corps et de leur redonner un. Et nous travaillons avec eux puisque sur les pentes d'Arwed, ils ont trouvé, sur la position des pionniers, ils ont trouvé un corps. Et nous travaillons avec eux, avec le laboratoire de Marseille, pour essayer de remettre un nom sur ce corps. Du coup, comme on espère effectivement aboutir dans les mois qui viennent à redonner un nom, eh bien, on a choisi Arwed comme point, on va dire, de focalisation de leur travail. Et on espère que les deux vont arriver ensemble avec ce corps qui repose pour l'instant au Macri, puisse retrouver une identité. Et les élèves, en fait, ont vachement adhéré à ça. Je pense que je devrais normalement pouvoir ramener ces classes en bordure de DMZ, pas loin d'Arwed, pour pouvoir leur montrer le terrain.
La DMZ, ou zone démilitarisée, a été créée le 27 juillet 1953 lors de la signature de l'armistice de Panmunjom. Elle sépare à l'heure actuelle la Corée du Nord et la Corée du Sud. Elle mesure 248 km de long et 4 km de large. Actuellement, sa latitude est appelée le 38e parallèle. Sa superficie est d'environ 1000 km² et elle est à l'heure actuelle inhabitée.
Donc on arrive à faire vivre à partir du moment où on sort un petit peu des livres pour les ramener sur le terrain, pour les rendre acteurs aussi de cette histoire. C'est-à-dire qu'en spectateur, ça ne marche pas très bien en fait. Mais par contre, quand on en fait des acteurs, ils s'en saisissent et ils l'apportent.
De nombreux monuments en l'hommage de la participation des troupes étrangères aux batailles s'étant déroulées sur le sol coréen sont présents et jalonnent le pays. Pouvez-vous nous parler de la place qu'occupent ceux dédiés aux combattants français durant le conflit?
Tout à fait. Alors, on a par rapport aux autres pays, mes prédécesseurs, le colonel Nas, a fait un travail assez exceptionnel puisque nous avons un monument sur tous nos lieux de bataille. Les autres pays ont fait d'autres choix. Ils ont fait un monument commémoratif pour la plupart d'entre eux à un endroit un peu symbolique, Capion pour les Canadiens et Nouveaux-Zélandais. Nous, on a, dans les pas du bataillon, dans le trajet du bataillon, à chaque engagement, on a posé un gros caillou, une grosse stèle, ce qui nous permet en fait d'être le seul pays qui, de plein droit, va dans la DMZ, à la limite de la limite, faire des commémorations. Parce que nous y avons nos monuments. Bon, sur certains monuments, nous avons même dispersé les cendres d'anciens qui avaient choisi de revenir une dernière fois en Corée. Donc, on a une place un peu particulière. Bon, on prend par exemple le cas du médecin-chef Jean-Louis, qui est mort en allant chercher deux Coréens dans un champ de mine. Les Coréens eux-mêmes ont fait une magnifique statue de ce héros à l'endroit où il est tombé. Il y a très peu de statues d'étrangers en Corée. À un moment, il n'y avait que le médecin-chef Jean-Louis et MacArthur. D'ailleurs, l'ambassade, un des bâtiments de l'ambassade porte aussi le nom, maintenant notre nouvelle ambassade porte aussi le nom du médecin Jean-Louis. On a ce réseau, ce dispositif qui nous permet de nous rendre sur les différents lieux. Dans quelques semaines, nous montrons en haut de la côte 1037, qui est un des combats du bataillon particulièrement sanglant. Nous allons organiser un petit trekking avec notre ambassadeur, avec le général commandant la 36e division, et nous allons monter, nous allons refaire le cheminement du bataillon durant cette bataille, et nous allons, outre, faire une petite commémoration, et bien, ensemble avec nos camarades de l'armée coréenne, passer un bon moment de souvenirs, mais aussi d'échanges sportifs. Donc, autre manière de faire vivre l'histoire.
L'année dernière, donc, se sont tenues des commémorations relatives aux 70 ans de la fin de la guerre de Corée, un événement assez important pour la République sud-coréenne. Comment s'est traduit vis-à-vis de la présence française, de la mémoire française, de la mémoire historique française en Corée, quels ont été les principaux événements marquants pour cette année 2023?
Alors, il y a les Coréens ont effectivement fait de très belles cérémonies. Il y avait une volonté de marquer cet événement. L'entrée en guerre n'avait pas pu être marquée à cause du Covid. Donc, nos hôtes ont essayé de rattraper ça. Et la présidence actuelle est particulièrement sensible à l'histoire. Et le président de la République de Corée accorde une importance particulière, non seulement à l'histoire, mais aussi à l'attention qu'on doit porter aux anciens combattants. Donc il y a eu de très beaux événements et ces événements étaient pour nous Français rehaussés par la visite de notre secrétaire d'État qui a pu non seulement participer aux commémorations, on va dire, très officielles, hein, mais surtout que nous avons pu amener, que d'autres n'ont pas fait, mais que nous n'ont pas pu faire, nous avons pu l'amener jusqu'au cœur de la DMZ sur un des monuments, sur les lieux mêmes de la bataille, dans un endroit qui est toujours en guerre. Donc c'était un petit peu particulier. Je pense qu'elle a beaucoup apprécié, enfin, c'est ce qu'elle nous a dit, et je la crois, on a passé un moment un petit peu particulier. Comme je vous dis, je vous évoquais les échanges avec les soldats coréens. Notre secrétaire d'État a déjeuné avec ces jeunes appelés coréens dans leur baraquement, avec leur général de division, mais avec les premières classes et les caporaux de l'armée coréenne. Et avant de nous rendre sur les lieux de commémoration, donc de mettre les casques et les gilets, on a mangé ensemble et on a échangé. Donc vous voyez bien le lien qu'il y a entre une simple commémoration et une réalité militaire, tangible, avec des jeunes soldats qui montent la garde, tiennent leur poste de combat, sont prêts à réagir à une agression nord-coréenne. Vous voyez que l'histoire ne s'est pas arrêtée, elle s'est figée, dirais-je, dans ces lieux-là. Et quand on va effectivement au cœur de la DMZ, hein, ce qu'on appelle un peu la DMZ profonde, là où, en fait, il n'y a que nous, Français, qui allons dans ces espaces mémoriels, on voit que l'histoire s'est figée depuis 70 ans, en fait. Donc on est toujours dans la guerre de Corée, quelque part, et dans la violence de ces paysages. Donc vous voyez le lien entre l'histoire, le commémoratif classique et la réalité stratégique actuelle, il est évident.
La France et la Corée ont effectué en 2023 un exercice aérien à Jimé dans le sud du pays. Il semble très rare de voir un exercice militaire conjoint entre la Corée du Sud et la France. Cela signifie-t-il que la mémoire peut prendre une part active dans l'actualité? Et avez-vous un commentaire à apporter à ce propos?
Cette escale aérienne s'intègre dans le cadre de l'exercice Pégase 2023, donc, qui est un exercice majeur de l'armée de l'air avec des moyens extrêmement conséquents qui ont amené nos avions jusqu'à la Corée et jusqu'au Japon. Et c'est effectivement la première fois que nous avions des avions de guerre, des avions de combat en Corée du Sud, ce qui a donné l'occasion d'échanges, de coopération militaire, pas seulement effectivement un survol ensemble du cimetière de Busan, mais des exercices bien concrets de refueling. Et on est arrivé à bien parce que nous avions effectivement cette escale en même temps que la visite de notre secrétaire d'État aux anciens combattants. Et on en a effectivement, toujours dans cette volonté de faire le lien entre le passé et le présent et l'avenir. Eh bien, nous avons employé un de nos avions pour aller chercher notre secrétaire d'État avec la délégation d'anciens combattants, la ramener de Séoul jusqu'à Busan pour faire ce lien avec nos anciens et la délégation qui les accompagnait dans notre A400M, pour faire ce lien entre hier et aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, nous parlons de mémoire en France, nous faisons vivre. Ce n'est pas une mémoire ici, c'est une présence. C'est vraiment quelque chose de très différent. On n'est pas en train de faire, comme on le fait en France, raconter la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est comme si la Deuxième Guerre mondiale ne s'était pas arrêtée. Et chaque jeune Coréen le vit, puisqu'il aura donné entre 18 et 24 mois de sa jeune vie pour défendre son pays. Donc c'est socialement, humainement, pour chaque Coréen, cette guerre, elle est présente dans leur vie, puisque, encore une fois, c'est pas anodin de passer 18 mois à monter la garde à Roed. Donc oui, l'histoire ici, elle a quand même une réalité. Ce n'est pas un sujet d'étude scientifique, c'est une véritable, enfin, sens très très concret et très très humain pour nos amis coréens.
Très bien, je vous remercie beaucoup, mon colonel.
Et je vous remercie encore pour ce moment passé ensemble.
Merci à tous les deux, merci au colonel Ettori, et je rappelle que vous êtes attaché de défense à l'ambassade de France en Corée du Sud. N'oubliez pas de vous abonner à la fréquence Fort et Clair pour ne manquer aucun épisode. À bientôt.